ma femme bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, dans notre émission, je vais vous faire entendre le témoignage d'un journaliste reporter de guerre, Jacques-Marie Bourget. Jacques-Marie Bourget a fait un entretien sur la chaîne YouTube qui s'appelle Et Lucide avec le journaliste Olivier Berruyer. Olivier Berruyer qui a fondé cette chaîne Et Lucide en 2021. Alors voici comment est présentée cette chaîne Et Lucide. C'est une entreprise solidaire de presse qui se donne comme mission de transmettre les connaissances fondamentales pour redonner le pouvoir aux citoyens et aussi offrir des clés de compréhension essentielles pour décrypter l'actualité avec nuance et hauteur de vue. Sous le titre « Échapper à la mort et révéler la vérité, l'incroyable histoire d'un reporter de guerre », Olivier Berruyer annonce le 12 novembre 2022 son entretien avec Jacques-Marie Bourget. Olivier Berruyer nous invite aussi à partager son entretien et je me permets donc de vous le faire entendre à vous, auditrices et auditeurs de Civis Pacem, parce que je pense que ce témoignage peut intéresser les pacifistes et les antimilitaristes. Alors, nous écoutons Olivier Berruyer.
Jacques-Marie Bourget, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Et Lucide. Alors, tu es un grand reporter et écrivain. Tu as travaillé pour des médias très connus comme Le Canard Enchaîné, L'Express, Paris Match, VSD. Après, tu as eu au cours de ta carrière assez longue, ça fait 55 ans que tu es journaliste, un parcours relativement classique puisque tu es parti dans les maquis du Salvador pendant plusieurs mois avec la guérilla. Après, tu as révélé que les États-Unis avaient vendu des armes à l'Iran alors que l'Iran prenait en otage, dans les années 80, les Américains dans leur ambassade. Ensuite, tu as révélé l'affaire du Rainbow Warrior, l'affaire Greenpeace. Après, tu étais au Kosovo où tu enquêtais sous les bombes et tu démontais la propagande de l'OTAN qui expliquait évidemment qu'il n'y avait aucun problème, très peu de victimes. Et enfin, en 2000, tu as été laissé quasi pour mort puisque en Palestine, l'armée israélienne t'a tiré dessus. Et tu es resté agonisant jusqu'à ce que le président Chirac en personne se démène pour demander ton rapatriement pour te sauver la vie. Donc c'est de tous ces éléments-là que j'ai envie qu'on discute ensemble dans cet entretien avec une vision finalement de c'était quoi le journalisme avant, puisque a priori ça semble avoir quand même pas mal changé. Alors première question, je dirais pour toi, c'est quoi être journaliste ?
Être journaliste, il y a une définition qui est absolument extraordinaire. Pour moi, est extraordinaire. Un jour, je pose la question à un journaliste qui, pour moi, était le prototype du journaliste, qui s'appelait Jacques Renard, qui a travaillé au Figaro, au Matin, qui a été correspondant aux États-Unis, qui a été au Vietnam, qui a bourlingué, mais avec élégance, quoi. Et un jour, on parle cinéma, et il me dit, ah bon? Moi, je ne vais jamais au cinéma. Pourquoi tu vas jamais au cinéma? Et il me répond, parce que j'ai trop peur qu'il se passe quelque chose pendant ce temps-là. Donc, c'est un peu la définition du journaliste. C'est-à-dire que pour moi, un journaliste, dire que c'est une vocation, c'est stupide, parce que c'est nous envoyer chez les curés ou chez les religieux, ou c'est grotesque. Bon, on peut avoir la vocation d'être instituteur, j'entends bien, mais bon, c'est un mot qui, moi, personnellement, ayant été élevé dans la catholicité pure et dure, la vocation, ça me fatigue. Mais il y a quelque chose comme ça. Je veux dire, quand on commence, on va au bout, on lâche jamais, on dort pas, on mange pas, on prend des avions qui tombent, on divorce, on attrape la cirrhose. Mais c'est comme ça. Autrement, c'est pas possible. Je veux dire, maintenant, il y a des RTT, les journalistes s'appellent plus collègues, ils s'appellent collègues comme à la Sécu et non plus confrères. Enfin, tout a été changé. Mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, on y va complètement.
Comment toi, tu es devenu journaliste? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut faire une école de journalisme et puis hop, c'est bon, ça y est, on a ce qu'il faut pour commencer sur cette activité-là. Comment toi, tu as commencé? Comment à l'époque, d'ailleurs, les gens commençaient? Toi, tu as fait des études
J'ai pas fait d'études, non. J'avais 14 ans et demi, j'ai passé mon certificat d'études primaires. Et au terme du certificat d'études primaires, ma mère a dit, celui-ci est tellement stupide qu'on va le garder. Mon père était paysan, on va le garder à la ferme pour s'occuper des vaches. Et j'avais une sœur qui était, elle, dans un collège de bonnes sœurs en Anjou. Et mon père, qui était assez un peu égalitaire, enfin même très catho, mais très catho sincère, quoi, a dit, mais c'est pas possible que sa sœur fasse des études et lui, non. Donc on m'a mis dans un collège de curés à 15 ans, pratiquement. Et on pouvait pas me mettre en sixième, donc on m'a mis en cinquième, où j'ai dû découvrir l'algèbre, l'anglais, le latin, enfin l'horreur, pas le latin, mais ces trucs-là. Mais pour échapper au fumier, à la paysannerie, je sais pas ce qui s'est passé, à Pâques, ils m'ont fait passer en quatrième, puis après, j'ai fait des études jusqu'au bac. Et ensuite, la vie m'a happé. Il y a j'ai fini un truc chez les jésuites, mais c'était une erreur totale. Et les jésuites m'avaient dit, mais vous devriez faire normal sup, et je sais pas quoi. Pour moi, ça voulait rien dire. Moi, ce que j'aimais, c'était jouer au foot et faire du sport. Et donc, je suis parti sans diplôme à Paris pour faire, soi-disant, une école de journalisme, qui était Place Saint-Germain-des-Prés. Et je suis allé une heure dans cette école, j'ai trouvé ça d'une stupidité telle que je suis parti, je suis jamais retourné, je n'ai jamais dit à mes parents, mais c'était grotesque. Je dis, mais je vais perdre ma vie là-dedans, je préfère aller boire des coups à côté qu'écouter leurs sottises. Et en même temps, j'avais un peu une ambition de comédien, je savais pas trop quoi, donc je suis allé au cours du Lin au TNP, et là, un jour, je tombe sur Jean-Pierre Darras, qui était un comédien assez connu. Il me dit, mais dans la journée, tu fais quoi? Je dis, j'attends le soir pour aller avec les copains. Et puis, bon, écoute, à l'ORTF, il y a un boulot. José Arthur, il cherche des jeunes. Donc, je suis allé au boulot des jeunes de José Arthur. J'étais engagé. Et puis, 68, j'ai été mis à la porte. Et puis, voilà, quoi. C'est comme ça que je suis rentré.
À l'époque, c'était quoi le profil du journaliste? C'était des baroudeurs comme ça ou c'était des...
Ah, il y avait, mais le profil du journaliste, c'était essentiellement des écrivains. Parce qu'avant-guerre, tous les grands reporters, pratiquement pas tous, les grands reporters, même non reconnus comme écrivains, étaient tous quand même des gens qui écrivaient très bien et qui en général avaient publié des livres. Mais il y avait tout, aux États-Unis les fameux Hemingway, Dos Passos, Steinbeck et compagnie. En France, il y a eu Nizan, Malraux, Macorlan, Bernanos. Enfin, c'était pas des c'est pas des moindres. Donc il y a eu toute une école qui a duré très longtemps d'écriture. Je parle que de presse écrite. De belle écriture, de bonne écriture, et de types qui travaillaient sérieusement, qui allaient sur le terrain. Et un grand reportage, c'était pas prendre l'avion pour aller en Birmanie, croiser deux Rohingyas dans le désert. Un grand reportage, c'était la longueur du reportage, le temps mis pour le réaliser, la difficulté de l'enquête. Quelquefois, il y avait quatre ou cinq, en feuilleton, quoi, épisodes du reportage. Et c'était ça, un grand reportage. C'était pas aller loin, c'était aller fort. Et donc, moi, j'ai connu la fin de ça, où fallait savoir écrire, fallait avoir ce qu'on appelle des bonheurs de plume, une certaine élégance, mais qui n'était pas gratuit. Il y avait du fond. C'est-à-dire que les gens qui étaient... si je vais à Nizan, il est mort à Dunkerque parce qu'il était militaire, mais c'est des gens qui se mouillaient. Même Malraux, dont on s'est moqué, il est allé bombarder dans la guerre d'Espagne. Donc, c'était à la fois des gens engagés, pas baroudeurs, mais engagés dans des combats ou des causes, physiquement en danger, et en même temps ayant un talent d'analyse et d'écriture.
T'expliques d'ailleurs que cette industrie avait vraiment été marquée par la période d'après-guerre, puis le changement issu de la guerre. Donc toi, t'es arrivé évidemment à la reconstruction de la presse.
Oui, bien sûr, mais pour faire court, au début du début, en 1920 et quelques, après la guerre 14, c'était assez intéressant, parce que la presse se vendait énormément. Hein. Mais il y avait des sanctions, c'est-à-dire que le journal La Presse, qui avait écrit... Dans son titre, Nageurs et colis ont traversé l'Atlantique, c'était des aviateurs, alors que l'avion était tombé. Le journal La Presse est mort un mois après, parce que les lecteurs ont dit, ah ben non, un journal qui ment comme ça, enfin qui se trompe, on n'en veut pas. Tous les journaux qui ont écrit que Dreyfus était coupable, pas tous, mais presque, ont perdu nombre de lecteurs, parce que même les gens qui avaient cru un peu ce que racontait leur journal, ont constaté que Dreyfus n'était pas coupable, donc ils ont cessé de l'acheter. Il y avait une sanction, c'est assez... assez caractéristique. Et avant-guerre, il y a eu une presse horrible, antisémite, maurassienne, d'extrême droite, prônant le nazisme et l'Europe nouvelle. Mais il y a eu toute une frange de presse qui était tout à fait, correcte et engagée. Engagée, ça ne veut rien dire, parce que l'extrême droite est aussi engagée, mais pour, des valeurs humanistes. Et c'était là encore des intellectuels, j'aime pas ce mot-là, mais des gens qui essayaient de penser la société, de la regarder et de la transcrire aussi complètement que possible, même si ça leur coûtait de la douleur, éventuellement certains se faisaient tuer, parce qu'il y avait aussi des conflits à cette époque. Donc c'était une espèce d'œuvre, le journalisme c'était une espèce d'œuvre littéraire comme une espèce d'encyclopédie interminable. C'était un petit peu ça. Bon, à côté, il y avait des faits divers et puis des histoires de people déjà à cette époque. Mais c'était une espèce de saga interminable, le journalisme, avec un ton, avec des règles.
Alors, les temps ont bien changé depuis lors. Finalement, quels sont les traits saillants que tu as vus dans le changement de la façon de traiter l'information au cours de ces années?
C'est toujours très. Enfin, j'ai une position un peu. Je vais pas pleurer pendant toute l'interview, mais le côté c'était mieux avant. C'est en même temps, je comprends pour les jeunes journalistes, c'est absolument insupportable parce qu'ils peuvent même pas imaginer l'existence de ces temps antérieurs. Et ça se posait en dehors de leçons, mais enfin, je vais quand même essayer d'expliquer ce que j'ai, l'observation participante, comme disent les sociologues, de voir ce que j'ai vu autour de moi. Mais le trait, ça part en fait de l'origine sociale des journalistes. Bon, ça part de la crise de la presse, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de titres, il y a de moins en moins de boulot, donc les journalistes qui ont la chance d'avoir un travail mal payé, à part pour quelques stars et copains de fils d'archevêque, ils ont intérêt à garder leur truc, donc ils écrivent ce qu'il faut écrire. Mais l'origine sociale des journalistes, c'est incroyable, c'est encore plus... sélectif dans le genre grande bourgeoisie ou bourgeoisie que les architectes. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas les cataloguer, quoi. Ils sont hors normes. Les journalistes, jusqu'en 1982, je crois, étaient des cadres moyens. Tâcherons, machin, faisaient le boulot, etc. Puis en 82, il y a une ligne spéciale dans la nomenclature qui a été créée. Et les journalistes sont devenus cadres supérieurs avec les professions libérales, les artistes, etc. Donc maintenant, c'était des cadres supérieurs. Mais la sélection par ces fameuses écoles où on n'apprend rien, si, sauf à être obéissant, a fait que qui rentre dans ces écoles, c'est pas des fils de prolétaires ou d'épiciers ou je sais pas quoi. Enfin, c'est tous des fils et des filles de bourgeois et de grands bourgeois qu'on fait une prépa, qu'on fait Sciences Po, qu'on fait la passerelle entre Sciences Po et le centre de formation des journalistes, etc. Donc, un, leur expérience de vie, eux, c'est le ski. On y va tous les ans. Saint-Tropez ou à la mer, on y va tous les ans dans la maison de campagne de grand-mère. C'est une espèce de vie artificielle. Ils ont jamais vu des vrais gens et des vrais lieux, quoi. Jamais. Ils savent pas ce que c'est. Quand on voit à la télévision l'endogamie, c'est-à-dire que regardez à la télévision les fils et les filles d'eux qui montrent leurs bobines. Il y en a un, il a quand même un tonton qui ravage la presse depuis 50 ans et qui dit tout et son contraire. Un papa qui a été qui a gratté la rouille de l'ORTF pendant des années, une maman qui est aussi sur le service public, et lui, ah, miracle, il a trouvé un job de journaliste. C'est pas formidable, ça?
On ne donnera pas son nom pour ne pas faire d'appel
de
flamel.
Mais c'est un beau modèle. Et on le verra faire le beau. C'est formidable ce que vous faites, mais comment faites-vous pour être aussi doué? Et pour avoir un stage, vous avez eu des problèmes? C'est absolument terrible. Et y a un exemple qui est caricatural, celui que je viens de citer, mais l'endogamie dans la presse, notamment... écrite pas mal, mais audiovisuelle, elle est catastrophique. Donc, ça crée une caste qui dit, qui écrit, et qui se pose absolument aucun problème.
Si la pluie en torrent tombe sur les genêts, si le brouillard descend à l'oreille des forêts, si ta route se perd, si tu es fatigué, si le vent de l'hiver souffle dans la vallée, étranger, étranger, viens frapper à notre porte. Nous ne demanderons pas qui tu es ni où tu vas, nous ne demanderons rien. Viens. Si tu n'as pas trouvé de ruisseau en chemin, si l'eau n'a pas coulé dans le creux de tes mains, si la faim te poursuit comme une louve avide dans le froid et la nuit, si ta besace est vide, étranger, étranger, viens t'asseoir à notre table. Nous ne demanderons pas qui tu es ni où tu vas, nous ne demanderons rien. Viens. Si tu veux raconter la douceur de chez toi, si ton cœur veut chanter des refrains de là-bas, ou si plus simplement tu ne veux que te taire et regarder longtemps le feu et sa lumière, étranger, étranger, reste encore pour la veillée. Nous ne demanderons pas qui tu es ni où tu vas, nous ne demanderons rien. Viens, nous ne demanderons pas qui tu es ni où tu vas, nous ne demanderons rien. Viens.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire, et vous venez d'entendre une chanson de Michel Buller intitulée « L'étranger ». Alors dans cette émission, nous écoutons depuis le début le journaliste Jacques-Marie Bourget, qui s'entretient avec un autre journaliste qui s'appelle Olivier Berruyer sur le site Elucide. Il s'entretient sur le métier de journaliste et surtout le métier de reporter de guerre. Alors après avoir dit ce qu'il pensait de la formation des journalistes, Jacques-Marie Bourget nous parle maintenant de l'information délivrée par la plupart des journalistes.
Dire que les journalistes aujourd'hui mentent, c'est faux, ils ne mentent pas. Ils n'imaginent pas que la vérité puisse ailleurs ou que ce qu'il y ait une différence avec ce qu'ils racontent. Donc ils ont aucune mauvaise foi, ils ont aucune honte. Moi, quand je disais ou j'écrivais un mensonge, je savais pas où me mettre. Je veux dire, ça m'est arrivé, mais j'avais honte. Je disais, c'est pas bien, etc. Des trucs borderline, quoi. Eux, ils vous affirment des trucs absolument invraisemblable, mais avec une assurance absolument de grands bourgeois, quoi. Ils sont chez eux dans la vérité, ils transportent la vérité avec eux dans leur sac à dos, il n'y a aucun problème. S'ils se trompent, c'est aussi une des choses, c'est-à-dire que en France, quand un journal se trompe ou un journaliste, il n'y a jamais d'excuses. Ça n'existe pas. Aux États-Unis, il y a des excuses. Ce qui est arrivé pour les armes de destruction massive en Irak ou pour les élections truquées, soi-disant, par les Russes à l'époque de Trump, ils s'excusent, mais ils recommencent le lendemain. Mais ils s'excusent. En France, il n'y a jamais d'excuses. Jamais. Donc, on est dans la certitude sociale. Donc, faire des journaux avec des gens comme ça, ça pose aucun problème. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de recherche. Une anecdote qui, moi, me plaît beaucoup, c'est que j'avais un vieux camarade de journaux et il avait fini au CFJ comme directeur des études, ou je ne sais pas trop quoi. Je le croise, place de la Bourse. Comment tu vas et toi? Il me dit, je suis au CFJ, patron des études. Alors je lui dis, mais j'espère que vous enseignez le doute. Il me répond, non, on n'enseigne que des certitudes. Mais si tu veux enseigner le doute, la porte est ouverte. Donc, imbécile que je suis allé au CFJ pour essayer d'enseigner le doute. À partir d'exemples du genre des Timisoara, des fausses choses, de les orienter de là-dessus et voir qu'en fait, c'était faux. Et j'y suis pas retourné parce qu'ils en ont rien à faire de ce que je leur racontais. Leur rêve, c'était de présenter un journal télévisé, alors que dans le passé, c'était d'aller grand reporter en sortant du CFJ. Non, c'est présenter un journal télévisé, avoir une femme blonde, une maîtresse blonde, une maison dans la vallée de Chevreuse, une BMW dernier modèle, aller au ski et faire du voilier. Je suis caricatural, bien sûr, mais c'est ça, quoi. Donc j'ai abandonné, j'ai compris que la cause était perdue. Moi, à une époque, j'avais été viré de l'ORTF, j'avais fait la révolution, je me suis retrouvé dans un journal de droite, et un jour, le rédacteur en chef du journal, qui est un type formidable, un ancien normalien, on allait boire des blancs au coin du comptoir, m'appelle et me dit, Jacques-Marie, faut me dire, on va aller au café d'à côté, faut qu'on se parle. Et il me dit, faut pas oublier que vous travaillez pas à Libération. Mais Libération, c'était pas Libération de maintenant, c'était 72, etc. C'était Libération qui voulait faire la révolution mondiale avec Sartre et compagnie. Ça veut dire qu'on avait un jeu, quoi. C'est-à-dire que, il y avait des règles à respecter, mais on pouvait, dans un journal de droite, non pas sur une opinion ou une idéologie, mais sur une réalité, la réalité qui dérange. On pouvait l'exprimer dans un journal, une réalité qui dérange la droite. On pouvait, dans la gauche, exprimer une réalité qui dérange la gauche. Et c'était pas, on n'était pas viré, on avait. Aujourd'hui, on supprime des tribunes dans les journaux parce que ça déplaît au président de la République. L'histoire d'Assange, elle est quand même significative. Ce type est journaliste moderne avec des outils contemporains qui dénonce que les États-Unis ont écrabouillé des gens à Kaboul. Et autre chose, on est en train de mourir en prison et on va le transférer aux États-Unis où il va mourir pour de vrai. C'est incroyable, quoi. Il a dit la vérité, il doit être exécuté. C'est la chanson de Guy Béard.
Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, il n'y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En cœur ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le monde doit s'enivrer de discours. Pas de vin, rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Combien d'hommes disparus qui un jour ont dit non, dans la mort propice, leurs corps s'évanouissent. On ne se souvient ni de leurs yeux, ni de leurs noms. Leurs mots qui demeurent chantent juste à l'heure. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce soir avec vous, j'ai enfin la règle du jeu. J'ai enfin la règle des moineaux, des aigles. Vous avez très peur pour moi, car vous savez que je risque vos murmures, vos tomates mûres. Ma chanson a dit la vérité, vous allez m'exécuter. Ma chanson a dit la vérité, exécutés.
Merci d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Et nous poursuivons justement l'écoute d'extraits de l'entretien du journaliste Jacques-Marie Bourget avec Olivier Berruyer, fondateur du site Élucide.
Et donc voilà, on va parler un peu de ton parcours que tu as eu, mais j'ai envie de commencer peut-être par la toute fin, par le dernier livre finalement que tu as écrit, qui concerne le Qatar, parce que c'est en plein dans l'actualité, évidemment, avec la Coupe du Monde qui va s'ouvrir. Et il y a une dizaine d'années, tu as écrit un bouquin sur le Qatar. Quelles en sont les principales conclusions?
Le livre sur le Qatar...
C'est quoi ce Qatar, d'ailleurs?
Il est né d'une idée de mon complice qui est dans cette affaire, qui est Nicolas Beau, un ancien du Qatar enchaîné, avec lequel on s'était... orienté vers le net et le web, puisqu'on faisait bakchiche.info. Et un jour, il me dit, Jacques-Marie, ce serait bien de faire un livre sur le Qatar. Je dis, arrête de boire, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Mais il avait raison, en fait. Moi, j'ai pioché un peu, et le Qatar, c'était une escroquerie intellectuelle absolue. C'est-à-dire que toute la France présentait le Qatar comme l'islam moderne, la magnifique Cheikha, qui est l'ami des arts et des lettres, ce pays tellement démocratique, enfin, etc. Et puis, mais en deux heures de Wikipédia ou de je sais pas quoi, on disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un pays qui a pas de constitution, c'est un pays qui a condamné à mort un poète parce qu'il avait souhaité que le printemps soit une saison qui arrive au Qatar, printemps arabe. Corruption, châtiment corporel, et puis la façon dont les 2 millions, à l'époque 1 million et demi d'immigrés qui faisaient tourner ce pays, parce qu'au Qatar, il y a que 200 000 Qataris de souche, comme dirait Marine Le Pen, donc voilà, et la façon dont on les traitait, comment on prenait leurs papiers à l'entrée, comment après ils étaient entre les mains de négriers, comment ils mouraient comme des mouches sur des chantiers de belles tours dont les plans avaient été faits par des intellectuels de gauche, des architectes de gauche français ou européens, c'était absolument scandaleux. C'est-à-dire que toute cette image, bon, j'y croyais vaguement, je dis bon, il y a peut-être, c'est un petit peu éclairé. Bon, le prédicateur en chef Qaradawi qui vient de mourir, le malheureux Qaradawi, mais il regrettait qu'Hitler ait pas fini le boulot. Enfin, c'était le grand prêcheur et confesseur de la Cheikha et tout ça. Il avait des prêches à la télé, Al Jazeera, qui durait des heures. Il a été invité au Bourget, au grand meeting de l'islam. Quand j'ai vu ces trucs-là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette engeance? Et en fait, j'ai compris que comme le Qatar avait mené une stratégie absolument diabolique avec l'ami de Français et autres, ils avaient réussi, à force de reportages bidons, d'invitations, de pots de vin, de paiements, à se faire une image absolument de la béatitude. Alors, comme en plus le Qatar, le prince du Qatar, pas celui actuel, mais le précédent, au moment où on faisait le livre, avait été mis sur le trône avec l'accord de Washington, que la base Uday à Doha, c'était la plus grande base américaine en dehors des États-Unis, c'était un pays béni, il fallait pas trop le chatouiller, c'était extraordinaire. La base Al-Uday, qui est donc cette plus grande base américaine, à l'époque, il y avait des jets sans arrêt qui décollaient pour aller bombarder les talibans à Kaboul, mais les talibans avaient une ambassade à Doha, à 2 kilomètres de l'aéroport, avec le drapeau. Donc, on y perd son latin, c'est-à-dire que tout était possible. Le seul qui ait réglé le problème, c'est quand ils ont fait une ambassade tchétchène et qu'ils ont abrité les Tchétchènes à Doha. Poutine, où est-ce que c'était Poutine? Je sais pas, oui, déjà sûrement à l'époque. Enfin bon, Poutine ou je sais pas qui, les Russes, ont envoyé des types et poum, les Tchétchènes, le chef Tchétchène, il est mort. Ces imbéciles, ils se sont fait choper à l'aéroport, donc ils ont été mis en prison ou je sais pas quoi, enfin arrêtés. Et manque de chance, à ce moment-là, le Qatar avait une équipe de handball qui était en Russie. Et les Russes ont dit au Qatar, vous les aimez bien, ces gars de l'équipe de handball, ils sont ces boursons, ils sont gentils et tout ça. Et donc, on a échangé les tueurs russes contre l'équipe de handball qatari, et les choses, et l'église s'est retrouvée au milieu du village, si je peux m'exprimer. Donc, c'est un pays d'une complexité, d'une duplicité, du, prêt à tout, quoi. Et pendant un moment, même, dans le cadre de Tout le monde s'aime, à l'époque où c'était pas la mode, les Israéliens, certains Israéliens avaient des maisons de campagne au bord de la mer, au Qatar, et aller faire leurs courses dans les malls du Qatar. Ça posait absolument aucun problème.
Comment il a réussi à avoir autant d'influence?
Alors que Karadawi, pendant ce temps-là, disait, les Juifs, il faut les pendre, machin, il faut finir le boulot. Ben, avec le fric.
C'était quoi leur stratégie par rapport à l'Occident, par rapport à la France, par rapport aux États-Unis?
Ben, le pavillon américain, c'est-à-dire que c'est Washington qui a 1005 rems sur le front de l'émir. Tu nous obéis, tu dis bonjour à la dame, tu fais ce qu'on t'a dit faire, etc. Donc ça, c'est très très bien. Et puis après, il fallait bien que cet ador soit exploité, mais on pouvait pas dire la vérité crue telle qu'elle était.
Mais il y a aussi des enquêtes, sur des personnalités politiques aussi.
Ah oui, ben, complètement. Mais bien sûr, il y a un député dont j'ai honnêtement oublié le nom. Lui, il a envoyé son mail à Doha en disant j'ai besoin de 4 billets d'avion pour ma famille parce que c'est les vacances. Il y a Rachida Dati qui faisait sans arrêt l'aller-retour parce que c'était la copine, j'en sais rien de la nature du copinage avec le procureur de Doha, qui était un forban par ailleurs. Il y a eu l'excellent Dominique de Villepin. Ça fait 20 ans qu'il est en charge d'écrire la Constitution, mais il n'a pas encore trouvé le stylo. La fille de l'émir, enfin une des princesses, a été élevée chez lui à une certaine époque. Le Qatar, ça arrangeait tout le monde. Ça permettait de faire du fric, ça permettait de planquer des trucs, ça permettait de faire des affaires, de passer des vacances un peu au chaud, on s'emmerde, mais enfin, il y a un terrain de golf, enfin voilà, c'est tout payé.
Mais c'est tellement dingue en plus, parce que pour pas qu'on ait l'impression que ça va que dans un sens, il y a une déclaration off qui a vraiment fuité d'un ancien ambassadeur à Paris du Qatar qui disait mais enfin c'est quoi ces Français, peux plus, ils viennent de demander de l'argent comme si c'était une banque.
Mais oui, il a fini par craquer, il est parti à Washington. Alors au départ ça s'est mal passé parce que je crois qu'il y a eu un problème il a exigé qu'on construise un ascenseur spécialement pour lui dans l'ambassade. Pourquoi? Enfin, c'est des détails, mais c'est pour montrer la mégalomanie du personnage. Mais même lui, dont le métier était de corrompre, etc., à un moment, il disait, mais là, vraiment, ils exagèrent. C'est hallucinant, quoi. Et ça, c'était la corruption de la classe politique. Classe politique qui, par exemple, a voté une exemption de taxes, dont j'ignore la nature, sur l'immobilier, la plus-value, ou je sais pas trop quoi, immobilière, pour les Qataris. Pourquoi? Mais je plaisante pas, hein, c'est pas de la blague. Ils ont voté à l'Assemblée nationale une exemption de la taxe immobilière, de le bonus, je sais pas, fallait payer des impôts si on faisait une transaction immobilière. Non, eux, parce qu'ils étaient du Qatar. Et l'argument, c'était que le Qatar répandait l'islam lumineux dans le Moyen-Orient et que Al Jazeera était une chaîne absolument formidable. C'est écrit noir sur blanc à l'Assemblée nationale.
Pourtant, il a été accusé de répondre aussi au terrorisme, quand même, le Qatar.
Ah ben, évidemment, quand il y a eu le début de la descente des djihadistes depuis la Libye, parce que Sarkozy ayant eu la merveilleuse idée de pulvériser la Libye avec l'aide d'Obama qui est allé sur la pointe des pieds, et les Anglais, mais ils y sont allés quand même, ses copains dans la mise en l'air de le chaos libyen, c'est le Qatar. Il y a des types de la DGSE qui allaient à Doha, il y a des types des Libyens, notamment Abdelkader Belhadj, Abdelkrim Belhadj, qui venait à Paris avec la DGSE pour discuter de la stratégie militaire dans les montagnes de Nefoussa. Enfin, ça a été monté par le Qatar qui donnait du fric, par des amis du Qatar et par la DGSE et les Français. Quand la Libye a été par terre, les djihadistes étaient chez eux, donc ils sont descendus au Sahel, parce qu'on a le truc qu'on a actuellement. Quand la première fois le Mujaho, c'est-à-dire le mouvement des djihadistes pour l'Afrique de l'Ouest, c'est l'acronyme, a pris Gao, immédiatement, les salaires des hôpitaux ont été payés, il y a eu des uniformes neufs, etc. Ah bon? Comment ça se fait? Le Qatar avait envoyé deux avions gros porteurs, il y a des colonnes de 4x4 qui étaient parties depuis Doha, ils étaient là, sur place, avec les djihadistes. Alors bon, ça fait quand même un petit peu désordre, et l'argument dans ce cas-là, comme le sud Niger, Boko Haram, ils sont en chouille avec le Qatar, c'est une zone, le sud Niger avec le nord Niger, c'est une zone de non-droit et de non-je ne sais quoi, où Boko Haram a son clan de vacances, quoi. Et le Niger, ils ont eu, il n'y a aucun problème, il fallait construire une mosquée, une madrassa et tout ce qu'on veut, puis après, bon, ils avaient les crédits. Donc là, le Doha a vitrifié au départ, toute cette région avec son fric, quoi. Et quand on disait au Qatar, là, vraiment, là,
ça se voit,
vous exagérez, hein. Et puis on avait des noms de bailleurs de fonds. Ils disaient, ah, à lui. Ah oui, c'est vraiment pas bien. Mais il fait pas exprès, c'est parce que c'est un homme très charitable. Donc il pratique la zakat, c'est-à-dire la charité islamique. Et il donne cette charité à des gens qui sont malfaisants, qui méritent pas qu'on les aide. Voilà.
Mais finalement, ça t'a choqué, alors, finalement, qu'ils obtiennent cette Coupe du Monde au Qatar?
Ça m'a fait rire, parce que moi, j'aime bien le foot. Mon premier métier, c'était footballeur professionnel. Donc, je sais ce que c'est. Mais oui, j'ai trouvé qu'ils avaient fait fort, là, quand même. Non, ça m'a pas choqué, j'étais admiratif. Je veux dire que le Qatar, un pays de 200 000 habitants, qui est gros comme un confetti au milieu du désert, obtiennent la Coupe du Monde de football, là, fallait, chapeau, hein, c'est vraiment...
Oui, parce qu'on parle beaucoup des morts nombreux, des ouvriers étrangers qui sont allés mourir au Qatar pour construire les stades. C'est vrai qu'on sort le chiffre de peut-être 100 morts par match, alors, peut-être la moitié, hein, on peut discuter, donc on voit que ça fait beaucoup. On a beaucoup parlé de ce chiffre-là, comme si en fait les gens étaient, c'est des gens qui sont morts pour construire des stades, mais comme si c'était unique. Donc en fait, toi, tu as bien montré que c'est une petite goutte d'eau de tous les gens qui sont exploités et qui meurent pour construire plein de choses au Qatar.
T'as
enquêté là-dessus d'ailleurs.
Il fait 45 degrés à l'ombre et en plein soleil, il doit faire 60 et quelques. Un Népalais fut-il extrêmement costaud, si on le met 2 heures au soleil, il devient une figue. Hein. Donc c'est absolument terrible. Donc il y a eu des morts sur tous les chantiers. Je le répète, dont les plans ont été faits par de magnifiques humanistes architectes européens, qu'ils n'en avaient rien à foutre, parce que c'était le sous-traitant, les morts, c'était pas l'architecte. Et c'était toutes les constructions, les tours, les bâtiments, puisque maintenant, Doha, qui était gros comme ça, maintenant, ça devient un gros truc.
Je dis parce que tu as enquêté sur ça.
Bien sûr.
Et comment t'as fait?
Et moi, pour trouver le nombre de morts, parce qu'au Qatar, on ne va pas se poser le problème d'avoir un cahier avec le nombre de morts. C'est pour eux, ça n'existe pas. C'est des noms non humains. À côté, le cycliste Uber, c'est en France, c'est un prince. Donc, on ne les compte pas. Ah bon, il y a des morts? Ah ben tiens, c'est dommage. Donc, les corps rapatriés au Maroc, au Népal, un certain nombre de pays, au Pakistan, etc., etc. Et j'ai téléphoné, enquêté auprès de toutes les ambassades pour essayer d'avoir un chiffre du nombre de cercueils revenant du Qatar. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir une approximation. Je ne vais pas dire qu'elle était totalement juste, au malheureux près, mais c'était ça.
C'était quel ordre ?
À l'époque, déjà, on était à 1200 ou 1500 ou 2000, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Oui. Maintenant, on serait rendu à 6000 en 10 ans, ça ne m'étonne pas. Sans compter qu'ils vivaient dans des conditions qui étaient absolument ordurières, que s'ils voulaient partir, ils ne pouvaient pas parce qu'on avait piqué leur passeport. Il fallait que le maître de l'esclave donne son feu vert. Et on publiait dans la presse, enfin la presse, c'est pas la presse, mais dans une page qu'ils appellent journal au Qatar, monsieur Mohamed Tala envisage de rentrer au Maroc, est-ce qu'il vous doit de l'argent? Est-ce qu'il vous a violé? Est-ce qu'il vous a battu? Est-ce que... Comme ça! Et s'il n'y avait pas de réponse, si tout allait bien, on finissait par rendre le passeport au type et il pouvait rentrer chez lui.
Merci d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Et nous poursuivons justement l'écoute d'extraits de l'entretien du journaliste Jacques-Marie Bourget avec Olivier Berruyer, fondateur du site Elucide.
Bon, alors comme promis, on va s'intéresser à ton riche parcours de reporter. Donc, on t'avait laissé à l'ORTF avant que tu sois viré. Alors d'autres souvenirs peut-être un peu moins magnifiques, c'est qu'après, non, tu es parti au Vietnam.
Oui, je suis allé au Vietnam. J'ai juste fait un petit séjour parce que je faisais un remplacement entre deux types en 74. Et ça m'a permis, le peu de temps que j'ai passé là, ou 73 peut-être, parce que 74 c'est la fin, ça m'a permis de voir le système de journaliste embedded de l'époque. C'est-à-dire que quand on était un journaliste embedded, c'est-à-dire qu'on suivait les troupes vietnamienne, on faisait la guerre avec les bidasses, hein, c'est-à-dire que je recommande aux gens de voir un film qui s'appelle la section Anderson. La section Anderson, c'est un documentaire authentique, je crois qu'ils sont partis à 12 ou 15 et ils sont venus à 10, enfin c'était terrible. Et le Schendorfer qui était avec eux, il vivait la vie des soldats avec les balles, les machins, les obus et tout ce qu'on veut. Et tous les journalistes qui suivaient les soldats vivaient le même danger, la même chose, la même... haine de la guerre, le même hashish ou la même héroïne ou le même tout ce qu'on veut que les soldats, c'est-à-dire qu'ils étaient ensemble. Bon, les experts disent que c'est à cause de ça que les Américains ont perdu la guerre, parce que les journalistes ont fini par montrer l'horreur et l'injustice de ce truc, et on a eu tort de les laisser faire et de montrer ça. Donc tout ça, ils ont rayé, les Américains, ça c'est fini. Quoi. Le embedded à la vietnamienne, le embedded qu'ils ont pratiqué ensuite, notamment en Irak, c'est on est bien calfeutré dans un blindé avec des vitres qui font 5 cm d'épaisseur, on vous conduit exactement où on veut, on doit vous conduire, vous photographiez le chameau ou je sais pas quoi, enfin, ça n'a plus aucune valeur, c'est inintéressant au possible.
Étape suivante, après, tu es parti en Iran?
Je suis allé en Iran, oui, au moment où le Shah... non, après le départ du Shah, quand Khomeini est arrivé, et là j'ai pu voir découvrir l'Iran, quoi. C'est-à-dire que moi j'étais dans l'Iran avec des belles femmes, à cheveux bien coiffés, des belles robes, des belles chaussures, des belles, tout beau. Enfin, le Dior et l'Occident, enfin le modèle occidental. Et puis quand on descendait un peu vers les quartiers où il fait plus chaud, où il y a de la poussière, ben c'était l'Iran qui était l'Iran, c'est-à-dire celui traditionnel depuis des centaines d'années, de femmes avec un voile, de type barbu, de ceci, de cela, le fond moyen culturel de l'Iran qui a dû bouger depuis, puisque ça fait 40 ans. Mais tout d'un coup, crétin que je suis, j'avais un schéma dans la tête d'Iran... c'était pas ça du tout.
Alors justement, en lien avec l'Iran, tu as été à l'origine d'une révélation, mais qui a eu assez peu d'écho, finalement. Tu nous racontes ça?
C'est très décevant, parce que quand on fait un beau travail, et que ça démarre par un coup de téléphone, on me donne un rendez-vous aux Champs-Élysées, je vois qu'il y a un mort par terre, je dis c'est mon rendez-vous qui est mort. En fait, c'était pas mon rendez-vous, c'était l'ami de mon rendez-vous. L'autre m'appelle en disant... en France, c'est trop dangereux, on peut pas discuter. J'ai dit oui, je crois. Et c'était un type qui avait 40 kilos de papier de dossier sur la vente d'armes des États-Unis à l'Iran. Mais la vente d'armes officielle, c'est-à-dire le gouvernement américain vendait des armes à l'Iran à l'époque où il y avait dans l'ambassade des États-Unis à Téhéran les diplomates retenus en otage. C'était quand même assez cocasse de voir que les États-Unis vendaient des armes à des gens qui détenaient leurs diplomates en otage.
Attention, ici, on ne parle pas de l'Iran Gate qui sera révélé après, qui était un trafic illégal et secret. Là, donc, tu parlais d'une vente officielle.
Donc, moi, j'étais assez fier de mon coup.
C'est toi qui l'avais trouvé, ça, en fait.
C'était énorme, c'était un coup colossal. Donc, je me voyais beau, je vois Time Magazine, ABC, qu'est-ce qu'il y a encore, je ne sais plus, ils marchent tous avec moi, formidable. Mais j'ai compris qu'ils marchaient avec moi pour me pomper mes documents, parce qu'ils voulaient des photocopies, mes informations, et les filer aux renseignements. Et puis, au bout d'un moment, ABC a retirer la carte de crédit de mon pool, si on veut. Ils m'ont tous laissé tomber. J'ai fini par faire un film sur Antenne 2 à l'époque, et puis un reportage dans VSD. Et c'était colossal. C'était le gouvernement américain qui vendait tous les jours des armes. Un avion partait de Miami à son ennemi juré, l'Iran. Donc, au départ, je dis, bon, ces documents sont des fraudes, je les ai fait identifier. C'était vrai. Et quelques temps plus tard, un type de l'ambassade m'a téléphoné. Oh, ben, vous savez, on aimerait bien, il y a des experts qui aimeraient voir vos documents. Moi, comme un crétin, je suis allé dans un appartement de la rue là-bas ici. J'ai donné mes documents. Et puis, ils vont dire, ça serait bien si on pouvait les photocopier. Je dis, prenez-les, je repasserai les prendre. Et l'appartement avait pas disparu, mais c'était plus là. Je m'étais fait simplement squeezer par des types de la CIA comme un bleu, quoi. Mais je m'en foutais, parce que l'affaire était sortie, puis j'avais pas à faire collection de ces documents.
Et en fait, finalement, t'avais un scoop.
Un scoop qui a fait pchit.
Et on n'en a pas parlé, en fait. Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, comment on décide que ça devient une affaire ou pas.
C'était une espèce de solidarité américaine, le drapeau. Fallait pas parler de ça, parce que ça permettait peut-être de libérer les otages, je sais pas. Enfin bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils ont pas du tout été friands de mon histoire. En revanche, l'Iran Gate, c'était après. Et puis l'Iran Gate, c'était un trafic, donc c'était pas le gouvernement américain, tu parles, qui vendait les armes, c'était des méchants commerçants. Mais moi, comme un crétin, j'arrive avec mon histoire trop belle et je me suis rétamé.
Donc après, finalement, tu te rends au Salvador.
Oui.
Tu fais quoi là-bas?
Au Salvador, c'est la guerre civile entre la gauche marxiste de tendance un peu cubaine sud-américaine dans le sud des révolutions et des vrais maquisards courageux qui se battaient au Salvador tous les jours. Il y a une vingtaine de types qui se faisaient découper en rondelles par les escadrons de la mort ou par les militaires. Et là, à l'époque, j'étais jeune et svelte et j'ai vécu pratiquement 4 mois en différentes tranches au Salvador, dont de très très longs moments avec les guérilleros dans la montagne. Alors, ils avaient une habitude particulière, c'est qu'ils connaissaient pas les lacets dans les montagnes. Ils montaient tout droit, comme ça. Donc, il fallait vraiment avoir une grosse pêche sous le soleil pour monter tout droit. Puis, bon, je dormais avec les rats dans des étables. Ils appelaient ça l'hospitalito, tu parles. Et ils étaient... c'était des types formidables, quoi. Des types engagés. Il y avait beaucoup de femmes. C'était assez étonnant. Et à un moment, je demande au commandant Medrano, qui commandait le groupe des guerriers, avec son chapeau, genre cow-boy, tout calme. Et je dis, mais quel est le plus jeune? Il me dit, le plus jeune, il a 12 ans. Puis il y en a un autre qui lui dit à côté, non, il est mort ce matin. Ça, c'était des trucs très, très émouvants, quoi.
C'était dangereux?
Ah, oui, parce que...
Parce que tu le racontes comme si c'est Club Med et ça a l'air très sympa.
Ah non, mais là, c'est pareil, on vivait avec les guerriers, donc le matin, c'était embuscade, et puis papa, et machin, bien sûr. Et puis il y avait les avions, quand même, quelques avions qui nous balançaient des trucs sur la tête.
Mais t'as eu... À cette occasion, et plus généralement...
Ah, j'ai eu du pot.
Mais plus généralement, on parlera après évidemment de la suite, mais t'as eu peur de mourir comme ça dans des combats?
Non.
Tu te dis, tu y penses quand t'es journaliste?
Non, je me croyais plus fort que le Roquefort. Je veux dire, je savais de quel côté il fallait se mettre pour être safe, machin, la bombe, le mortier, le truc mûche, etc. Bon, j'étais plus fort que tout le monde. Enfin, bon, pas arrogant, mais je pensais très bien gérer ça sans trop de problèmes, quoi. Et au Liban, je suis allé prendre mon petit déjeuner, on a de la chance parfois, mon petit déjeuner, et tout d'un coup, boum, boum, et c'était ma chambre qui avait pris un petit pélo d'un obus d'aviation. Si j'avais été en train de lire le journal, j'étais mort. Hein.
Parce que justement, bah, on continue ton parcours après, donc tu pars au Moyen-Orient, au Liban, et tu es là aux premières loges sur le massacre de Sabra et Chatila.
Oui.
Alors c'est très vieux maintenant.
Septembre 82, oui.
Ouais, donc ça fait 40 ans. C'était quoi et qu'est-ce que tu as vu?
Ben, j'étais allé assez souvent au Liban, puis on faisait des. On restait. À l'époque, c'est aussi un des principes, hein. C'est-à-dire que. Pour faire du bon reportage et du grand reportage, il faut rester longtemps, il faut connaître le terrain, connaître des gens. Autrement, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le grand reporter, il a trop tendance à rester 48 heures. Il fait un stand-up à la télé où il fait un papier. Il justifie l'option de son journal, c'est-à-dire qu'il dit que son journal a raison. Ce qui n'est pas dur parce qu'ils pensent tous pareil. Mais bon, le reportage... faut surtout pas qu'ils viennent à rebours de ce qui est écrit dans le journal. Et donc, j'y allais souvent. Puis là, tout d'un coup, attentat contre Bachir Gemayel, le président élu, nouvellement élu du Liban, mort. Donc, je fonce. Donc, j'arrive à Beyrouth. On arrive à Beyrouth, des conditions tendues quand même. On a l'habitude là-bas, mais là, c'était bien, bien, bien nerveux, parce que les Israéliens étaient autour de la ville, hein. Donc on arrive malin, plus malin que tout le monde, à s'infiltrer dans les lignes, on arrive à passer entre les lignes israéliennes, on arrive au cœur de Basta, le vieux quartier du Liban, et on dort chez des gens la nuit, on voit des boules de feu dans le ciel, on dit qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, on entend des tirs dans le sud, à la hauteur des camps de Palestiniens. Donc le lendemain, la ville est investie par les Israéliens, on descend dans le sud, et ça tapait, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y avait des tirs, des rafales. Mais quand c'est difficile de savoir ce qui se passe, hein, parce que si on ne surmonte pas, qu'il y ait des tirs, bah, à Beyrouth, il y avait toujours des tirs. Alors je dis à Marc Simon, mon photographe, on va dormir là, et puis on verra demain matin. Il me dit oui, on va dormir là, il y a un type qui va arriver, il va tirer d'abord, et puis parler ensuite, donc on sera mort. Je dis oui, t'as raison. Donc on est retourné à l'hôtel, et le lendemain matin, on est revenu les premiers à l'aube au camp, et c'est là où pendant une heure et demie, deux heures, on est resté tout seul, dans un camp où il y avait, les chiffres vont de 800 à 4000 morts, j'en sais rien, mais... des tas de morts, des petits-enfants empilés avec des petits-enfants, des petites-filles avec des petites-filles, des vieux... On ne peut pas décrire ça.
Il s'était passé quoi, en fait?
Il s'était passé, c'est tout simple, c'est-à-dire que les Israéliens avaient décidé de se débarrasser des terroristes. Les terroristes, c'était les Palestiniens qui étaient dans le camp de Sabra Chatila à Beyrouth. Donc, ils avaient fait un plan pour éliminer tout ça. Bon, ils investissent le Liban, et on leur dit, ben, calmez-vous, etc. On négocie, et on obtient le départ des combattants palestiniens en Tunisie, au Yémen, enfin, ils quittent Beyrouth. Ne reste plus que les femmes, les enfants, et des gamins de 18-20 ans. Bon. Mais les Israéliens, Sharon notamment, dit, non, 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 les terroristes, faut avoir leur peau, c'est les terroristes, c'est les terroristes. Il y a une engueulade entre Ronald Reagan et Sharon. Reagan voulant respecter la création en Israël de deux États, respecter les pays arabes, donc les Palestiniens, faut pas de bon. Et Sharon disant, bah, si vous voulez pas supprimer les terroristes, nous on va les supprimer. Bon, et de guerre lasse, Reagan a dit à Sharon, on vous donne 48 heures. Et pendant 48 heures, les Israéliens ont pris leurs supplétifs, c'est-à-dire les phalangistes libanais, mais qui étaient préparés et entraînés pour faire ce coup.
Et c'était quoi les phalangistes libanais?
Bah, c'était la phalange chrétienne, c'est-à-dire, bon, qui est plutôt qui était liée à Israël, puisqu'ils s'entraînaient en Israël, les amis des Américains, et disons très très, très idéologie post. Nazi, hein, puisque le père Gemayel, son modèle, c'était le parti nazi. Donc, très, très réactionnaire, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et eux, ils ont servi de main-d'œuvre pour massacrer. Des Israéliens sont eux-mêmes rentrés dans le camp pour liquider un certain nombre de personnages. Et c'est eux qui ont fait cette boucherie, barbarie, ce truc absolument inimaginable. Alors qu'autour du camp, il y avait les Merkava, les chars israélien, mais ben non, ils n'ont pas bronché. Soi-disant, le plan, c'était de ne pas investir les camps, puisque c'était la promesse faite aux Américains. Et nous, on a trouvé après, le lendemain, dans un local occupé par les Israéliens, le plan noir sur blanc, avec les flèches, où ils montraient qu'ils allaient investir le camp, puisque c'est normal. Aujourd'hui, il y a des trucs secrets de la commission Kahan, à l'époque, d'enquête qui ont été publiées par un chercheur américain qui s'appelle Azerki. Cet Azerki, il a fait un travail formidable, où on voit tout ce dialogue avec le verbatim avec Reagan, et on voit que l'objectif premier, c'est de ratisser le camp de Sabra et Shatila et de faire disparaître tout le monde, quoi. Donc aujourd'hui, c'est indubitable. Les phalangistes, ils ont bon dos. Je veux dire, c'est des salopards, mais c'est pas eux qui ont fait ça de leur propre initiative. Alors le petit ajout où là on trouve la France, c'est que l'armée française qui avait quitté les camps qu'elle était censée protéger, ils quittent les camps. On tue tout le monde. Ils reviennent le lendemain, et puis je vois, moi, des camions dans le camp qui continuaient à prendre les quelques mâles qui traînaient par là. Ils les attachent avec du fil de fer, ils leur attachent les pouces dans le dos, puis ils vont les exécuter dans la montagne. Donc j'avise un commandant de l'armée française, je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Ben alors ?» Je dis « Mais les phalangistes sont venus dans le camp pour chercher les derniers survivants. » Et il me dit « Mais non, c'est pas des phalangistes, c'est les autorités. » Parce que comme les phalangistes étaient ils avaient des uniformes militaires, kaki avec des camions militaires, le commandant français, pour lui, c'était l'armée libanaise, c'était les autorités légales, quoi. Ce qui fait que, sans le vouloir, la France s'est rendue complice d'un nouveau Sabra Shatila dans Sabra Shatila, dont les victimes, on ne sait pas trop, mais c'est 150 à 200, et il n'y a que la presse américaine qui a parlé de ça. En France, il n'y a jamais eu une ligne.
Ça fait quoi, se retrouver devant des tas de cadavres comme ça, des enfants massacrés?
J'ai fini par écrire un livre, mais 30 ans après, parce que je... C'est ça. Il n'y a pas de mots, quoi. Je veux dire, c'est des trucs. Les femmes enceintes éventrées, enfin, etc. Enfin, l'enfer, quoi, de Dante. C'est atroce, quoi. Les yeux des femmes survivantes, les silencieuses. Il y a Jean Genet qui a écrit 4 heures à Shatila, qui est un truc assez. Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas parfait, mais enfin, c'est intéressant. Mais. Et ça jamais. En décembre 82, le massacre de Sabra et Shatila a été déclaré acte de génocide. Il n'y a jamais eu de jugement, hein. Jamais. Alors que le génocide est imprescriptible. Pas eu d'enquête, pas eu de jugement. Il y a eu une enquête libanaise faite par le procureur Germanos. Manque de chance, son bureau a brûlé avec les dossiers. C'est vraiment pas de peau, hein. Et puis après, c'est fini, quoi.
E come song a fumo gada Stephen Est, come song a fumo gada Stephen Est, yous. E canta, 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 canta go d'ambur. E canta, 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 canta Palestina, canta, canta speranza. E che speranza cam, risperato non mora.
Merci d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Et nous poursuivons justement l'écoute d'extraits de l'entretien du journaliste Jacques-Marie Bourget avec Olivier Berruyer, fondateur du site Élucide.
Étape suivante, un peu moins dramatique, il y a quand même un mort dans l'histoire, c'est l'affaire Greenpeace, où la France a fait exploser le bateau, le Rainbow Warrior de Greenpeace, qui voulait aller voir de plus près les essais atomiques français. Ouais. Alors, on n'a pas su tout de suite que c'était la France, c'était une histoire. C'est toi qui as révélé en fait, le rôle des services secrets là-dedans.
Oui, c'est-à-dire, je ne veux pas raconter toute l'histoire. Parce que
on le fait très court, mais...
Et le hasard fait que je connaissais un agent de la DGSE et que sans qu'il me dise un mot, même aujourd'hui, il refuse de m'en parler, j'ai réussi à le piéger et à trouver dans ses affaires, à un moment où il était parti téléphoner, un document qui démontrait qu'il était sur zone, là-bas, comme ils disent, en Nouvelle-Zélande. Donc, sachant, connaissant son occupation, je savais que la DGSE était impliquée dans cette histoire. Après, j'ai fortifié mon enquête et j'ai publié le 8 août 1985, la DGSE a fait couler le Rainbow Warrior. Alors là, branle bas de combat, mais on se sent pas, quand on publie ça, il faut être suivi par son patron, on se sent pas, c'était Boris Chiesiel de ESD, on a besoin d'être conforté, parce que c'est cher quand même.
Mais c'est probablement le plus gros scandale d'État des années 80.
Oui, oui, c'est cher, hein, c'est accuser l'État, parce que, en fait, c'est Mitterrand avait donné son feu vert, etc. Bon. Donc, il se trouve que j'ai eu raison. Et que c'est bien la DGSE qui avait fait couler ce bateau. Pour ce faire, j'ai obtenu un prix Scoop. Bon, voilà, pourquoi pas. Et puis après,
Tu es même allé poser une fois que tu as
oui,
pris le prix des journalistes.
Oui, je suis allé poser devant la DGSE. Oui,
devant la DGSE pour les troller un peu. Mais justement, toi, ce que tu as appris, pour finir sur cette... ce point-là, c'est pourquoi on l'a fait couler.
Oui,
alors, ça, les gens ne savent pas vraiment.
C'est beaucoup plus tard. Quelqu'un qui me raconte jamais rien, pour une fois, m'a dit, mais pourquoi on a fait sauter ce bateau, c'était pas du tout pour... comme il y avait des essais atomiques, que le bateau allait gêner les essais atomiques. Ils s'en foutaient, les Français, parce que le bateau, on le prenait en remorque, on le tirait, on l'emmenait hors de la zone. C'est simplement que, après les essais atomiques, on utilise le périmètre de tir pour essayer des nouveaux armements, des missiles ou des choses comme ça. Et là, ils ne voulaient pas, puisque dans le bateau de Greenpeace, il y avait des espions avec des appareils, etc., travaillant pour l'Angleterre ou peut-être les États-Unis, ils ne voulaient pas qu'il y ait des mesures de télémétrie, de machin, de missiles qui soient faites. Donc là, c'était intransigeant, personne ne peut approcher. D'où la décision de couler le bateau. Puis il y a un crétin qui a mis la mine la plus forte en premier, au lieu de mettre une petite mine en premier, faire fuir les passagers et mettre la deuxième mine pour couler le bateau, ils ont mis d'abord, il y en a un qui a mis d'abord la mine la plus forte, ce qui fait qu'il y a eu un mort.
Une autre histoire où tu as participé, c'est l'Irak, en 91, avec beaucoup. Le déclenchement de la guerre, où tu étais sur place.
Moi, j'ai toujours été dans le clan des mauvais. Quand j'étais en Irak, on m'appelait Saddam Bourget. Alors, c'était quand même très gentil, hein, Saddam Bourget. Pourquoi ? Parce que j'étais en Irak. À un moment, j'étais en Irak, il n'y avait plus que trois journalistes. Il y avait un Espagnol, Alfonso Rowe, il y avait Peter Arnett de CNN et Mapom. Bon, et quatre jours avant le déclenchement de la guerre, il y avait 500 et quelques journalistes. Ils se sont tous cassés, nous on est restés. Ah ben on m'appelait Saddam Bourget parce que j'étais en Irak.
Mais finalement, comment tu fais pour informer si t'es pas aussi dans le camp d'en face ?
Mais évidemment, voilà. Alors, moi j'observe qu'actuellement, le clan d'en face, où on peut très bien aller, des visas, mais à part la Corée du Nord, mais je pense que j'y serais arrivé. Mais moi, je n'ai jamais eu un refus de visa. Alors évidemment, il m'est arrivé d'avoir fait... non pas des bassesses, mais d'aller voir des ambassades en disant « mais quand même, ce serait mieux qu'il y ait quelqu'un pour raconter ce qui se passe dans votre pays, de votre côté, etc. etc. » Et puis de guerre là, j'avais un visa, puis après je faisais mon boulot. Mais là, j'étais assimilé au mauvais et j'étais Saddam Bourget.
Il y a un drame qui t'a beaucoup marqué, oui. à ce moment-là.
L'histoire de l'Irak, c'est l'histoire de la destruction, une des destructions, la volonté de destruction du pays pour reconstruire le Moyen-Orient, de l'Iran au Maroc, enfin, le vieux croissant américain, qui est le vieux thème des néoconservateurs américains. Donc, et prendre le pétrole en passant. Moi, j'étais là-bas, et la même chose, un matin, mon interprète, chauffeur, ami, frère, et tout ce qu'on veut, arrive, viens vite, il y a un drame. Alors, je monte dans le taxi, on arrive dans la banlieue de Beyrouth, de Bagdad. C'est Amiria, ça veut dire la piscine, le quartier de la piscine. Il y a il y avait 17 abris à Bagdad, construits par les Norvégiens, un étage, au-dessus du sol et deux étages en dessous. Ça a été construit par un Norvégien, ça faisait 2 mètres de béton, enfin, c'était un truc incroyable, ça avait été construit pour éviter les tirs iraniens pendant la guerre Iran-Irak. Et on ne pouvait pas approcher à 50 mètres tellement c'était chaud, c'était incroyable. Et en fait, c'était un avion furtif, donc indécelable, donc pas de sirène d'alarme, etc., qui avait tapé l'abri, parce que soi-disant Saddam Hussein était dedans, qui avait percé 2 mètres de béton, c'est dire la puissance, et à l'intérieur, il y avait 450 femmes et enfants qui étaient pulvérisés. Parce que les jeunes hommes étaient à la guerre au Koweït, les vieux étaient restés entre eux à la maison parce qu'ils buvaient de l'alcool, ils jouaient aux cartes, machin, tranquille, et dans l'abri, il y avait les femmes et les enfants qui ont été absolument pulvérisés. Et ça, ça m'a, là encore, mais bouleversé de voir ces femmes et ces enfants écrabouillés, et de voir le peu de cas qu'on a fait de cette histoire. Life, le journal américain Life, qui est reparu à cette occasion de guerre, parce qu'il avait cessé sa parution, a fait sur cet abri, et a pris une de mes photos, parce que j'ai fait des photos, j'étais tout seul, pour illustrer, on voit un bus avec des corps dedans, c'est bombardement sur un abri... à Bagdad, on sait, à la limite, on ne sait pas si c'est pas Saddam Hussein qui a... Et c'est tout. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a que 450 femmes et enfants transformés en hachis. Alors après, quand ça s'est passé comme une lettre à la poste, comme dirait l'autre, on se demande pourquoi il n'y a pas... pourquoi on réclame quand on réclame une justice et des jugements et des criminels, il faut que tout le monde soit sur le même type de traitement. Or, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est-à-dire que, bon, l'OTAN, la communauté internationale, comme ils disent, et tout ça, ne peut pas faire de bavure, puisque c'est des bombardements démocratiques, c'est des bombes démocratiques, c'est le bon droit,
c'est des morts démocratiques.
C'est des salopards qui sont en dessous, etc. Donc, bon, bah oui, ils n'ont pas de chance. Hein. Mais voilà, donc moi je trouve ça complètement inadmissible, impossible à engranger, à mettre dans le cerveau et à l'admettre. Donc si vous voulez, on devient cynique, on devient je sais pas quoi. Ce truc de l'abri, c'est monstrueux.
Étape suivante de tes pérégrinations de guerre, cette fois tu te retrouves au Kosovo, en Serbie, en 99. Qu'est-ce que tu y vois là-bas? Parce que c'est l'époque, pardon, où l'OTAN se met à bombarder...
Oui. Un pays d'Europe. La Yougoslavie, ça m'a toujours beaucoup intrigué, parce que je me méfiais. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais le conflit tchétchène m'avait un peu débecté, parce que j'avais vu que le conflit tchétchène, c'était quand même les djihadistes, des espèces de Daesh avant l'heure, qui essayaient de prendre le pouvoir dans une zone du Caucase. Donc, moi, crapahuté avec, je sais pas comment ils les appelaient, les Boïvoki ou machin, les combattants islamistes tchétchènes, c'était pas ma tasse de thé, donc j'ai pas mis mon nez là-dedans. Après, j'ai vu la Bosnie, je me dis, c'est un peu la même histoire. Izetbegovic, c'est en fait un islamiste radical, etc. Enfin, je sentais pas bien ce truc-là. Et puis finalement, arrive cette histoire de bombardement sur Belgrade. Alors là, j'étais sur le cul, parce que quand même, les Serbes, qui étaient les alliés de la France en 1914, la fraternité, tout ce qu'on veut, ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En pleine Europe, tout d'un coup, on lâche des tonnes de bombes et tout ce qu'on veut. Donc je me débrouille pour obtenir un visa, ce qui n'était pas extrêmement compliqué. Après, sur place, je fais mon boulot, et c'est ahuri que j'ai vu des avions qui détruisaient les ponts, les hôtels, qui tiraient sur le... Qu'envoyaient... À un moment, j'ai vu deux gros tomahawks comme deux éléphants qui se promènent au-dessus de ma tête la nuit, là, à 30 mètres au-dessus de ma tête. Qui sont allés s'enfourner dans le ministère de la Défense. J'ai dit, mais c'est le Vietnam. Enfin, c'était hallucinant que sur le plan philosophique, en Europe, dans les pays... frères, entre guillemets, ou enfin de même culture, de tout ce qu'on veut, je comprenais pas. Et à un moment, je dis, ben, j'aimerais quand même bien aller au Kosovo. Et comme j'avais des relations avec les Serbes, qui étaient plutôt de bonne qualité, ils ont compris que je faisais mon boulot. J'écrivais pas sous leur dictée. Ils m'ont permis d'aller au Kosovo. Alors là, j'ai eu une première surprise, c'est de découvrir Régis Debray, qu'il fallait quand même être culotté pour être à Pristina à ce moment-là. Que le stade de foot, contrairement à ce que vous nous avez dit, n'était pas transformé en camp de concentration et qu'avant, Milosevic n'avait pas joué au football avec des têtes humaines.
Il y avait ça dans la presse, hein, faut le rappeler.
Oui, dans la presse, on voyait que Milosevic jouait au foot avec des têtes humaines, que le camp de concentration, c'était le stade de foot, enfin, tout ce que des bêtises, quoi. Et je découvre aussi qu'il y avait des journalistes à Pristina, alors qu'on nous disait, il n'y a personne. Mais c'était des journalistes grecs, donc orthodoxes, comme les Serbes, donc menteurs. Donc, on ne prenait pas leur travail, on ne prenait pas leur reportage ni leurs photos. Parce qu'ils étaient orthodoxes comme les Serbes. Donc, j'ai commencé à travailler. J'ai vu les dégâts effroyables de l'OTAN, qui bombardait des colonnes de tracteurs. Ils prenaient ça pour des chars serbes, donc boum. Et en fait, c'était des carrioles, des remorques pleines de femmes et d'enfants des Kosovars. Donc, pulvérisés. À chaque fois, c'était 60 morts. J'ai vu un bus qui passait un pont, le bus pour aller à Nice, pas à Nice en France, mais à Nice en Serbie, tac, 60 morts. Ils sont givrés, enfin, c'est pas des objectifs militaires, c'était... Et là encore, épouvantable, que des civils et des massacres. On marchait dans l'uranium appauvri, là, parce que les obus étaient alourdis avec ça. Alors, dans ce cas-là, on a toujours le retour, surtout maintenant avec les portables et tout. Et on me disait, bah, écoute, le Kosovo, il y a des morts partout.
Oui, parce que le Monde avait même titré les 700 000 fantômes du Kosovo.
Donc,
à
Paris, au journal, on me dit, mais enfin, il y a 700 000 morts, machin, cherche-les. Je dis, mais enfin, c'est grand comme un mouchoir de poche. J'ai fait trois fois le tour, j'ai vu des gens qui pêchent la truite, j'ai vu je sais pas quoi, j'ai vu des colonnes de tracteurs écrabouillés, mais rien de plus. Ah non, c'est pas possible. Ils ont mis les corps dans les puits de mine. Alors, je vais à Kosova Mitrovica, un bled pourri, minier au nord du Kosovo. On pose la bagnole. Mon chauffeur, il avait une Citroën SM, ce qui est assez étonnant quand même comme type d'auto. Et boum, on se prend une balle. Je dis, bah, ça est bienvenu, c'est sympa. Et on a fait très très gaffe parce que c'était une zone. Je vais à la mine et puis je demande au type. Enfin, mon chauffeur, il est slovène, donc il traduit. Est-ce qu'on a mis des corps dans le puits de mine? Et là, il nous regarde comme la caméra invisible, là, les questions stupides, quoi. Il dit, mais ils sont girés, ceux-là. Il n'y avait jamais eu de morts mis dans les puits de mine. Eh ben, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait pas. Le bilan du truc du Kosovo, c'est 2500 morts, autant de Serbes que d'Albanais, de guérillas, de machins, puis de bombardements, puisque les bombardements de l'OTAN, ça a été quelque chose de sévère. Mais voilà, c'est ça l'histoire du Kosovo.
صباح فلسطين طل وفل وغشو حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويسعد طفل ونبقى نغني.
Merci d'être à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Et nous poursuivons justement l'écoute d'extraits de l'entretien du journaliste Jacques-Marie Bourget avec Olivier Berruyer, fondateur du site Elucide.
Alors, étape suivante, et je dirais peut-être apogée, et, dans des conditions dramatiques de ta carrière de reporter, c'est tu décides finalement de retourner en Palestine en 2000. Et à ce moment-là, alors, qu'est-ce qui s'est passé?
C'était la deuxième intifada. Donc, je dis, je vais aller en Palestine. Je vais aller voir le vieux Arafat avec lequel j'avais de bonnes relations, parce qu'on avait fait des voyages privés ensemble dans son jet clandestin. Enfin, je passe les détails, genre John Le Carré. Et puis, je vais faire mon boulot. Alors, je savais que les Israéliens allaient me casser les pieds, puisqu'il y avait cette histoire de Maxwell, etc. Mais qu'ils allaient me retenir 5 heures à l'aéroport, au pire m'expulser, mais bon. Et on me laisse passer, je passe une semaine ou 10 jours à Gaza, parce que Arafat était là, où ça flinguait quand même pas mal. Et puis je dis, maintenant on va rentrer à Paris. Et mon photographe, je ne connaissais pas, c'est la première fois d'ailleurs qu'il faisait des trucs où on se tirait dessus. Et deuxièmement, qu'il venait là, en Palestine. Alors je lui dis, écoute, si tu ne connais pas Ramallah, en attendant l'avion du soir, on va aller à Ramallah. On se met sur une grande place publique où il y avait un immeuble City Inn Hotel au milieu. Derrière, il y avait une colonie qui était gardée par des militaires israéliens. On boit une limonade. Il y avait des jeunes palestiniens qui étaient là. On était le long d'un mur. Enfin, on tuait le temps, quoi, en gros.
Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'affrontement.
Non, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Puis tout d'un coup, j'ai eu une onde. C'est bizarre, hein. J'étais assis par terre avec des types qui avaient entre 20 et 25 ans, un peu intello, étudiant. Voilà. Je me lève et tout d'un coup, j'ai dit à mon photographe, ça y est, j'en ai pris une, parce que il y avait l'air qui sortait par le trou, là.
Tu t'es pris une balle?
Alors, j'ai dit, merde, j'ai pris une balle, mais je croyais pas que c'était une balle. Je croyais que c'était, je sais pas quoi, une balle, mais pas une balle de M16, quoi. Et je dis, la première chose, je lui dis, surtout, tu dis rien à ma femme, hein, t'appelles pas, rien, tu lui dis rien. Bon. Et puis là, pouf, je tombe.
Tu l'as prise où?
Là, au-dessus du cœur, là, l'artère sous clavière, le haut du poumon, là. Donc, c'était pas mal visé. Si j'avais éternué, j'étais mort. Et les Palestiniens qui sont habitués, eux, ils ont compris. Il y avait une ambulance qui était pas très loin. Hop, ils sont venus, ils m'ont mis dans l'ambulance. Et je leur ai dit, en anglais, aidez-moi, je suis en train de mourir, je peux plus respirer. Et ils m'ont dit, n'ayez pas peur, monsieur, tout est sous contrôle. Bon. Et puis après, je sais plus, j'étais dans le coma, quoi. Alors, arrivé, je sais, puisque le photographe m'a raconté, à l'hôpital de Ramallah, les Palestiniens ont appelé l'interface israélienne en disant, écoutez, il y a un journaliste français qui a une très très grave condition, ce serait mieux que vous s'occupiez de lui. Les hôpitaux israéliens, c'est quand même mieux équipé que les hôpitaux palestiniens. Et puis les Israéliens, ils disent, non, on ne veut pas s'occuper de lui. Ce qui était logique, il m'avait tiré dessus, je ne sais pas pourquoi il voudrait me soigner. Hein. Donc, les Palestiniens s'y sont collés, et les Palestiniens, ils ont hélas une grande habitude de la chirurgie, hein, parce qu'ils ont des travaux pratiques, les malheureux. Donc, ils m'ont opéré, ils m'ont sauvé la vie, et 36 heures après, j'avais un avion sanitaire qui venait à l'aéroport Ben-Gourion pour me chercher. Et là, il y a une équipe qui venait à l'hôpital de Ramallah avec des appareils spéciaux pour me brancher. Puis après, on m'emmenait dans l'avion. Et les Israéliens ont dit non, on ne laisse pas passer l'ambulance, on ne laisse pas passer ce type-là et tout. Alors là, il se trouve que ma femme... moi, je connaissais assez bien Toubon à l'époque où il était ministre de la Culture, etc. Elle le savait. Je crois qu'elle a appelé Toubon, je ne sais plus. On disait, écoutez, monsieur. Et Toubon a appelé Chirac en disant, Chirac s'est renseigné. Il a appelé Mbarak, qui était premier ministre. Et il lui a dit, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Enfin, mais vous êtes malade. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez laisser tout de suite passer l'ambulance et sortir. Alors, ils ont cédé. J'étais toujours dans le coma, mais à l'arrivée à l'aéroport, ils ont quand même dit, non, pour aller à l'avion, 2 kilomètres à pied avec un brancard et des machines. Alors les médecins ont dit, mais vous êtes fous. Et donc, j'ai finalement été embarqué dans l'avion, où il y avait des tireurs d'élite autour de l'avion, quoi, si jamais j'explosais. Et je suis rentré à Paris, mais mourant, quoi. Donc c'est un miracle que j'avais reçu une balle de M16. Qui a été authentifié comme étant une munition israélienne. Et après, pendant 18 ans, je me suis battu, non pas contre Israël, qui a refusé les conventions pourtant une convention signée par Couve de Murli dans 51 conditions d'entraide judiciaire. Ils ont refusé. Et donc, je me suis battu en France pour me faire reconnaître comme victime par le fonds de garantie des victimes de terrorisme, je sais pas quoi. Et ça a été l'enfer parce que toutes les victimes indemnisées ou dont les cas sont étudiés sont en général des victimes du terrorisme islamique. Et moi, j'arrivais avec une balle israélienne, il ne faisait pas risette. Hein. Mais au bout de 18 ans, j'ai fini par gagner.
Tu as eu d'ailleurs une anecdote, finalement, qui te donne peut-être quelques pistes.
J'ai compris que c'était une vengeance. C'était parce que j'avais fait le crétin dans l'histoire Maxwell. J'avais pris un document du Shin Bet, ce qui n'est jamais arrivé, donc ça ne peut pas rester impuni. Et puis un jour, j'étais convalescent, mais au moment de l'attentat de Karachi, et contre les Français qui construisaient un sous-marin là-bas. Je suis dans l'avion de MAM, qui est ministre de la Défense, Et je retrouve Couserand, qui était le patron de la DGSE, un type que je connaissais bien. Et il me dit, mais Jacques-Marie, qu'est-ce que vous êtes allé faire en Israël? Bah, j'ai dit, je vais faire mon métier. Il me dit, mais vous êtes complètement fou, vous êtes suicidaire. Je dis, mais pourquoi? Bah, il me dit, vous ne saviez pas qui vous attendait, qui allait vous tirer dessus? Je dis, bah non. Bah, et nous, on savait. Je dis, mais il fallait me le dire. Voilà. C'est bête, bête comme ça, et ça vous fout quand même un grand morceau d'existence en l'air.
Et tu conseillerais à un jeune aujourd'hui d'être un journaliste, de devenir journaliste ?
Oui, mais de faire le journaliste lui-même, tout seul, et de faire sa propre ligne éditoriale. Maintenant, il y a le journalisme, bon, là, la presse papier, c'est mort ou c'est en train de mourir. Le journalisme, c'est Internet, c'est l'image, c'est le numérique, c'est tout ce qu'on veut, ça y est, on y est. Et c'est en plus le moyen de la liberté. Alors je pense qu'un jour, comme on disait quand j'étais petit, le grand capital va s'en rendre compte et essayer de resserrer toutes les vis pour contrôler l'Internet, le gérer comme il gère aujourd'hui le reste de la presse. Ça va finir par arriver. Mais pour l'instant, c'est le seul moyen de s'exprimer librement, c'est Internet. Moi, je publie pas mal de choses, bon, quelquefois dans les crises, mais ailleurs. Et les papiers que j'ai écrits aussi pour Elucide, j'ai jamais eu la moindre observation, le moindre problème. Je suis vigilant, je n'écris pas de bêtises, mais c'est magnifique, quoi.
Nous arrivons à la fin de notre émission. Il me reste à remercier le journaliste Jacques-Marie Bourget qui a rappelé que toutes les guerres provoquent des horreurs humaines inimaginables et que les responsables cachent le plus souvent les drames les plus atroces. Alors vous pouvez écouter l'intégralité de l'entretien entre Jacques-Marie Bourget et Olivier Berruyer sur le site Elucide. Je vous conseille d'ailleurs ce site car il y a d'autres entretiens très intéressants. Je vous laisse en compagnie des musiciens Enzo Evitabile et Amal Mirkus. Pour terminer cette émission, ils chantent la Palestine. Et il me reste à vous dire maintenant à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Comme sont vous ces jours stasir, comme sont vous ces jours stasir, comme sont vous ces jours. Io so la luna me schene culu, o so la luna me schene culu, o so li alu. E canta, 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 canta,
canta, canta, canta,
canta, canta, canta, canta,
canta, canta, canta, canta,
canta, canta, canta, canta, Palestina,
canta,
canta, canta, canta,
canta,
canta, canta, canta,
canta,
canta, canta, canta, canta, canta, canta, Palestina, canta, canta, canta,
canta, canta, Vittorio, canta, Enzo. ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويفرح طفل ونبقى نغني سوا نغني للحياة نغني للحرية نضيء سوية درب الحياة
Canta, 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 canta,
canta, canta, Enzo,
canta, canta, Vittorio,
canta, le Vittorio,
canta, canta, canta,
canta, le Vittorio,
canta, Palestina, canta, canta,
canta,
speranza, canta,
canta,
canta, canta, canta, canta, canta, canta,
canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta,
Vittorio, per Palestina, per me, per te, per noi, per nulla.
نحبك, نحب Vittorio, نحب أن نغني للحياة.